de l'autorité et de quelles autres notions. Je ne vais pas vous donner des recettes pour avoir de l'autorité. Je ne vais pas vous parler non plus de la crise de l'autorité, parce que je pense plutôt que l'autorité est une notion qui est régulièrement en crise. Parce que le problème de l'autorité, c'est de l'exercer. Et qu'au moment où on l'exerce, on ne sait jamais... On ne sait jamais trop bien si ça va marcher ou si ça ne va pas marcher. Et c'est le moment de vérité, c'est-à-dire celui où, on gagne ou on perd, où on assure ou on n'assure pas. Et donc, mais je vais vous parler de la complexité de la notion et de quelques notions qui sont connexes. Un élément qui interviendra seulement à la fin de, de ma présentation, c'est, et d'une certaine manière, ça sera un peu tard, mais il est difficile de faire autrement. Ce sera la considération de à qui on s'adresse et sur qui on exerce l'autorité, surtout, je dirais, dans les conditions actuelles et les conditions contemporaines. Donc, je vais commencer. Je vous indique mon plan pour que ce soit plus facile à suivre. Je vais vous parler des médiations du pouvoir. Ça correspond en partie. Donc, je passerai vite. Ça correspond en partie à un des textes qui a été mis à votre disposition. Ensuite, je vous parlerai de l'autorité, de ses bases. Et enfin, de autorité et éducation. Mais comme je suis philosophe, je ne sais pas si ça peut être convaincant ou pas, et que je ne souhaite pas me spécialiser dans une approche quelconque, c'est à partir d'une réflexion plus générale sur l'autorité que j'en viendrai à la considération de autorité et éducation. Alors, sur autorité et éducation, je dirais que j'ai une expérience... je ne suis pas seulement un théoricien dans ces affaires-là, parce que j'ai une expérience de première main, si vous voulez, et très diverse. D'une part, j'ai enseigné dans beaucoup d'endroits. D'autre part, j'ai dirigé une école, et une école assez remuante, pendant 7 ans. J'avais mission, en plus, de la réformer. Donc, ce n'était pas très commode, l'école, quand j'ai dirigé l'École nationale supérieure des beaux-arts. Et puis, j'ai eu une expérience passionnante les dernières années. C'est de faire, à titre purement expérimental... à Maison Alfort des groupes de philosophie avec des collégiens. Il en est sorti, M. Pestel vous l'a dit, il est sorti 2 volumes, il s'appelle La philo 100% ado aux éditions Bayard, qui couvre en gros le programme de la classe de terminale, mais avec des collégiens, c'est-à-dire des 5e, 4e, 3e. Et donc j'ai eu un contact tout à fait direct avec, mais quand même privilégié, très privilégié, avec les très jeunes générations. Alors, je vous parle rapidement des médiations du pouvoir. D'abord pour dire que le pouvoir, c'est la première chose dont il faut se méfier. Le pouvoir, c'est un mot fantasme. Et ça concerne chacun d'entre nous. Hein, soyons très clairs. C'est que le pouvoir, on le craint quand on en est les sujets, quand c'est nous qui sommes les assujettis, on craint le pouvoir. En même temps, on le désire, hein, soyons clairs, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Il y a une jouissance du pouvoir, et je dirais d'une certaine manière pour tout un chacun, ce qui fait qu'ailleurs quelquefois, et même très facilement, ça peut déraper, la jouissance du pouvoir. Il y a une fameuse expérience de psychologie... sociale qui s'appelle l'expérience de Milgram sur la soumission à l'autorité, où des jeunes étudiants étaient censés administrer des chocs électriques pour aider à l'apprentissage à des sujets dans des expériences de psychologie, et très rapidement on voyait que ça dérapait, c'est-à-dire que les gens augmentaient les doses en exerçant leur autorité, au nom d'ailleurs de l'autorité scientifique qui leur demandait d'augmenter les doses. Il y a une autre expérience, alors elle qui est beaucoup plus trouble, qui a eu lieu dans les années 70, c'est l'expérience de Zimbardo en Californie, bien sûr, c'était en Californie, puisque c'est un peu loufoque, où Zimbardo avait réparti ses étudiants en 2 groupes, les prisonniers et les gardiens. C'était des étudiants, et regardé le fonctionnement, et très rapidement, les gardiens s'étaient transformés en tortionnaires, et les prisonniers s'étaient transformés en victimes. Donc l'abus de pouvoir est quelque chose qui est... C'est-à-dire, ça a à voir avec les pulsions sadiques et masochistes qui sont en chacun d'entre nous. Et puis, en même temps, bien, le pouvoir, il y a de la fascination. Hein. Pour quelles raisons, j'en sais rien, mais il y a aussi, ne serait-ce qu'à cause des mises en scène du pouvoir... Regardez tout simplement ce qui se passe, la mise en scène de l'autorité, la mise en scène du pouvoir, la mise en scène des grands hommes, la mise en scène des cérémonies. Donc c'est un mot, c'est un terme fantasme. Néanmoins, le pouvoir, c'est important. Je laisse ça de côté, le fantasme. C'est important tout simplement pour arriver à faire agir des gens ensemble. Ce qui caractérise, j'en parlerai beaucoup par la suite, ce qui caractérise l'exercice du pouvoir, c'est la possibilité de faire agir un groupe. C'est pas très intéressant de faire agir une personne en particulier, mais c'est intéressant de coordonner la synergie d'un groupe, et c'est là que le pouvoir a véritablement, on sort de la fascination, et que le pouvoir a véritablement son utilité. Je suis bien, peut-être parce que j'ai été beaucoup dans l'administration et des deux côtés de la barrière, je suis très très opposé à la bureaucratie. L'exercice bureaucratique du pouvoir, je dirais, pour pourrir la vie aux gens qui sont soumis au pouvoir est quelque chose de catastrophique. En revanche, créer une synergie dans une équipe administrative, comme j'avais essayé de le faire à l'École des Beaux-Arts, ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant, et ça n'a plus rien à voir avec le sadisme du fonctionnaire. Donc, alors, ce qui est intéressant... Oui, il y a un sadisme du fonctionnaire. Ce qui est intéressant, c'est que votre papier n'est jamais bien rempli. C'est jamais bien rempli. Il manque toujours quelque chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est sur le pouvoir... Là, je passe rapidement, mais ça peut vous intéresser, parce que c'est des choses qui sont souvent un peu confuses. Et peut-être qu'elle m'intéresse aussi à cause de mon âge et de ma génération, c'est-à-dire que au XXe siècle, la vision qu'on a eue du pouvoir, c'était une vision qui était plutôt blanc et noir. Le pouvoir était oppressif, et on hésitait justement dans les analyses sur sa nature, parce qu'on le voyait surtout en termes de contraintes, en termes de répression. Mais en même temps, on ne comprenait pas toujours pourquoi les gens se soumettaient au pouvoir assez volontiers. Et du coup, on était entre, comme je mets dans la colonne de droite en haut, entre servitude volontaire et asservissement. La servitude, discours sur la servitude volontaire, c'est la Boétie, l'ami de Montaigne, qui a écrit cela. C'est vrai que comment se fait-il que les gens se soumettent volontiers au pouvoir et qu'en même temps, ils y soient asservis? Je dirais que ça, c'était une séquelle au XXe siècle de l'analyse marxiste, parce que l'analyse marxiste est une analyse plutôt de la violence des forces répressives, de la violence de l'État, de la violence de l'exploitation, et que cette analyse avait du mal à suivre, je dirais, les subtilités du pouvoir. C'est-à-dire que progressivement, l'exercice du pouvoir se faisait beaucoup plus subtil et beaucoup moins répressif. Et il y a eu au XXe siècle un renversement. Dans les années 70 notamment, qui sont des années assez cruciales. Donc, maintenant c'est le siècle passé, et surtout compte tenu de vos âges, pour vous c'est vraiment le passé. Et à l'époque j'étais étudiant, le philosophe marxiste Althusser a plus ou moins laissé de côté la notion de répression pour parler plutôt des appareils idéologiques d'État, c'est-à-dire de toutes les subtiles manières dont le pouvoir se fait obéir. On a redécouvert à cette époque, et j'ai été parmi les gens qui l'ont fait redécouvrir, on a découvert la philosophe allemande qui est devenue américaine, Hannah Arendt, qui a beaucoup écrit sur la violence, sur l'autorité, sur les régimes autoritaires aussi. Et puis surtout, ce qui a été passionnant dans les années 1970, c'est... la progression et l'approfondissement des analyses de Michel Foucault, surtout après 1975, je dirais, lorsqu'il s'est mis à analyser les mécanismes les plus fins du pouvoir, ce qu'il appelait la capillarité du pouvoir, ce qui fait que le pouvoir descend dans tout le système social et que nous le faisons nôtre, en quelque sorte, y compris jusqu'à ce que le pouvoir gère des choses aussi privées que notre sexualité, notre désir, notre rapport au corps. De ce côté-là, la dernière partie de l'œuvre de Michel Foucault est entièrement une analyse de la capillarité du pouvoir et de son côté un petit peu inassignable, en quelque sorte. Alors, comme une définition du pouvoir, vous voyez, ne pensez pas que le pouvoir est uniquement politique. Je veux dire, bien sûr qu'il est le plus souvent politique. J'aurais tendance à dire que c'est moins évident peut-être qu'au XIXe siècle, et que le pouvoir, c'est, je donne une définition, la capacité consciente d'exercer une influence sur le comportement d'autrui. Il faut que ce soit conscient. C'est-à-dire, sinon, il n'y a pas pouvoir. Sinon, c'est une détermination mécanique. Et une influence sur le comportement d'autrui. N'oubliez pas que le pouvoir, c'est pour le faire agir ou pour l'empêcher d'agir. Justement, si je reviens au pouvoir administratif, très souvent, c'est un pouvoir qui est destiné à nous empêcher d'agir plutôt qu'à nous faire agir. Alors, je passe vite parce que vous le verrez dans le texte. Il y a trois moyens du pouvoir, trois médiations, si vous voulez, trois intermédiaires. Là, on est tous à peu près d'accord là-dessus. C'est le consensus. C'est-à-dire, le pouvoir repose sur le fait que les gens sont d'accord sur... d'accord sur quoi ? Ben, ils sont d'accord sur les valeurs, sur les fins, sur les règles, sur les procédures, sur qui commande, etc. Prenez une équipe de foot. Hein, normalement, si elle marche à peu près, hein, les gens sont d'accord. Ils sont là pour gagner. Normalement, ils sont là pour gagner. Et normalement, ils obéissent au capitaine. En général, d'ailleurs, le capitaine, c'est pas forcément ni le meilleur joueur, ni la plus grande gueule, ni ceci, ni cela. C'est celui qui a l'autorité et autour duquel il y a un accord. Alors bien évidemment, beaucoup d'équipes professionnelles nous montrent exactement le contraire, c'est-à-dire que les gens ne sont pas d'accord, et chacun joue son jeu à lui, veut être transféré à Chelsea plutôt qu'à Troyes, etc., etc. Mais le consensus, c'est... Les équipes de sport sont très intéressantes à analyser pour les questions de pouvoir. Le consensus. Donc il y a un accord. Les valeurs, les fins, les règles, les procédures. Quelquefois, on peut ne pas être d'accord, par exemple, sur les valeurs, mais être d'accord sur les procédures. Quand je dirigeais l'école des Beaux-Arts, puis j'avais mission de réformer. Donc j'avais un corps enseignant qui était extrêmement divers, avec des gens qui étaient mes amis depuis très longtemps, que je connaissais depuis avant de rentrer à l'école des Beaux-Arts, et puis des gens qui étaient mes ennemis, qui me détestaient dès que je suis arrivé, et puis des gens qui étaient un peu indifférents. Et par exemple, j'avais même parmi mes amis, qu'ils sont restés d'ailleurs, même parmi les avis, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord sur la modernisation que j'imposais à l'école des Beaux-Arts. Mais ils étaient d'accord sur mes méthodes de direction, c'est-à-dire qu'ils considéraient qu'en gros j'étais un type correct. Les procédures étaient suivies, et c'était correct. Et donc, j'avais un soutien de ces gens-là, même s'ils n'étaient pas fondamentalement d'accord pour moderniser l'établissement. Mais, donc, les valeurs, on ne les partageait pas. Mais en revanche, sur l'accord sur les règles et sur les procédures, par exemple, une communication très transparente, le souci constant des étudiants, etc., ils étaient d'accord. Donc, à partir de là, eh bien, il y avait un consensus. Deuxième médiation du pouvoir, l'intérêt. L'intérêt, donc je reprends toujours l'exemple de l'école des Beaux-Arts, il y a un certain nombre de gens, quand vous arrivez dans un établissement, c'est classique, il y a un certain nombre de gens qui vont être d'accord avec vous tout simplement parce qu'ils en attendent quelque chose. Ils attendent soit une promotion, soit ils attendent tout simplement de la gloriole de se rapprocher du directeur, etc., etc. Donc l'intérêt, et l'intérêt, ça peut aller jusqu'à acheter les gens, hein. Et je dirais très franchement que j'ai acheté des gens quand je dirigeais l'école des Beaux-Arts, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'emmerdeurs que j'ai promus. Bon, point à la ligne. Hein. Je savais que de toute manière, j'allais pas les tuer. Hein. Je pouvais pas les virer. Il fallait que je fasse avec. Ben, autant qu'ils soient tranquilles. Et donc, j'ai un certain nombre de gens qui ont été promus. Et puis voilà. Hein, je veux dire, et pendant un certain temps, ça les a calmés. Hein, pendant un certain temps, parce qu'après, l'intérêt, on oublie vite. Hein. Bon, mais donc du coup, à ce moment-là, il n'y a pas besoin d'être d'accord. Hein, vous voyez, il n'y a pas forcément besoin d'être d'accord. Simplement, j'ai intérêt à obéir. J'ai intérêt à être menacé. Et puis, évidemment, il y a toujours le troisième élément, c'est la crainte de la force et éventuellement l'emploi de la force. Donc, le consensus, à mon avis, très important parce que c'est celui qui détermine souvent la relation d'autorité dans son sens le plus acceptable. L'intérêt, c'est ce qui détermine une relation d'incitation. Mais tous les jours, hein, tous les jours, on nous fait faire des choses par intérêt. Hein. Regardez votre comportement avec les opérateurs de téléphone mobile. Ils vous font faire, ils vous font marcher sur les mains au nom de petits intérêts ou pour gagner des points ou pour avoir des SMS gratuits ou je sais pas quoi. Et puis la relation de contrainte. Alors, ce qui est fondamentalement important de voir, et ce qui s'oppose justement aux analyses en noir et blanc des situations de pouvoir, c'est qu'en fait, dans toute relation de pouvoir, d'autorité, qu'on l'appelle comme on veut, au fond, ces trois dimensions sont présentes. Elles sont présentes soit d'une manière marginale, soit elles sont réellement présentes ensemble. Vous pouvez avoir une relation qui est absolument faite de consensus, par exemple, mais néanmoins, il y aura sûrement un élément d'intérêt, tout simplement parce que le consensus, c'est que les choses iront mieux, le groupe fonctionnera mieux, et tout le monde, il y aura moins de stress, et tout le monde s'en trouvera mieux, Et puis il y aura toujours à l'horizon une relation de contrainte. C'est-à-dire, si les choses dérapent, si ça ne va pas, quand j'ai refait l'ensemble du règlement intérieur, on a mis quasiment tout le temps de mon mandat à le faire, on a refait le règlement intérieur à l'école des Beaux-Arts, il est évident qu'on a prévu une commission disciplinaire et des procédures disciplinaires. C'est ça, ça c'était la dimension de contrainte. Je n'ai utilisé qu'une fois la procédure disciplinaire à l'école des Beaux-Arts, mais avec un élève masochiste qui avait absolument tout fait, qui voulait absolument, qui venait de voir en me disant « Monsieur le directeur, je veux que vous me fouettiez ». Donc il a tout fait et c'est devenu un artiste assez connu, Alberto Sorbelli. Donc il a tout fait pour être traduit dans la commission disciplinaire. Et un jour je lui dis, bon ben écoutez, puisque c'est comme ça, si ça vous fait tellement plaisir, on va la réunir, hein. Je veux dire, c'est une bonne occasion de voir si l'institution fonctionne. Voilà, on lui a donné un avertissement, il a été très content. Si vous voulez, il y a trois vecteurs dans une situation: le vecteur autorité, le vecteur incitation et le vecteur contrainte. L'idéal, c'est qu'on n'ait pas à faire jouer la contrainte, mais encore une fois, il faut quand même être conscient qu'elle doit pouvoir intervenir et que, justement, si elle doit pouvoir intervenir, il faut qu'elle, à ce moment-là, ça marche et qu'on ne perde pas la face. Très important. Bon, là, je passe sur la violence. Simplement, je voudrais dire une chose, c'est que je m'intéresse surtout à la colonne de droite. C'est que, métaphoriquement, dans chaque dimension du pouvoir, il y a un aspect de violence. Si le consensus est trop fort, si vous voulez, vous êtes dans une communauté où vraiment tout le monde est d'accord, et où c'est impossible d'être dissident, impossible d'avoir un avis différent, où vous n'osez même pas avoir un avis différent, vous êtes dans une situation de violence, que vous le vouliez ou non. J'ai eu la chance de faire, dans ma expérience, j'ai eu la chance en 1980 de passer 2 mois en Albanie, à l'époque d'Enver Hoxha. J'ai même dîné avec Enver Hoxha, j'étais plus près de lui que de vous. Et j'avais demandé d'aller en Albanie pour étudier un régime totalitaire absolument parfait. Là, j'ai été servi. Ce qui était très intéressant, c'est que quand vous demandiez aux gens le consensus, personne n'était d'accord, mais en fait, le consensus était tellement fort. Et alors là, il n'y avait pas d'insécurité. Le consensus était total, pas de dissidents, etc. Le consensus était tellement fort, quand vous demandiez à quelqu'un sur une chose, qu'est-ce que vous en pensez, vous, il n'arrivait pas à répondre, parce que c'était pour lui une question inintelligible. Ce qu'il en pensait, c'était ce que le parti en pensait. Le parti pense que... Mais même pour des questions stupides de la vie quotidienne, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? C'est une question qui n'avait pas de sens. Et là, bon, on était dans la dictature la plus étouffante, mais sous la forme du consensus. Bien évidemment, dans la dimension de l'incitation, par des récompenses, vous pouvez avoir aussi une violence, c'est-à-dire quand vous avez une dépendance économique complète et que vous ne pouvez pas faire autrement que de prendre le salaire qu'on vous donne ou de... pour éviter les sanctions. Et puis, bien sûr, dans le domaine de la contrainte, eh bien, la violence, c'est l'usage réel de la force, parce que très souvent, je veux dire, on fait seulement étalage de la force ou de la menace, mais on l'utilise pas. Alors, je dirais que les cas qui sont gênants, c'est justement quand ça marche pas. Qu'est-ce qu'on fait quand l'autorité ne fait pas obéir, quand les gens vous disent non, c'est non, on n'obéira pas. Que fait-on quand l'incitation économique ne fait pas obéir ? Et que fait-on quand la menace elle-même ne fait pas obéir ? Bon, il se trouve que dans les sociétés brutales, et il y en a des sociétés brutales, dans les sociétés il en reste encore, mais par le passé, les sociétés étaient extraordinairement brutales. Dans les sociétés brutales, ben, c'est pas difficile. Quand les gens n'obéissent pas, on tape, on cogne. Et on tue, c'est-à-dire point à la ligne, si les gens ne sont pas d'accord, c'est, on règle comme ça, et puis à ce moment-là on voit bien qui c'est qui gagne, parce que c'est pas évident que ce soit forcément celui qui commence qui gagne. Mais nous avons plutôt, je dirais, tendance à essayer d'exclure et de reculer la violence. Alors ça, je vous renvoie à des expériences que nous avons tout un chacun. D'abord, il y a de la violence symbolique, ne serait-ce que de montrer quand il y a des manifestations et que vous voyez avant la manifestation se mettre en place des systèmes de maintien de l'ordre, qu'arrivent des cars de garde mobile, de CRS, de policiers, etc., que sont mis en place des barrières, c'est de la violence symbolique. Il y a de la violence retardée, ça c'est très important. Alors là, pour les situations que nous connaissons, c'est on devient nerveux, où il y a du pathos, où il y a des menaces. Il y a l'appel à la violence du droit, très courant dans notre société. Hein, je veux dire que vous, au lieu de casser la gueule aux gens, vous allez dire « je vais vous faire un procès en diffamation hein, ». Vous voyez, c'est ça. Je vais vous dénoncer pour harcèlement, etc., etc. La violence du droit. Et puis, une tendance qui est très intéressante, c'est la cosmétisation, la cosmétisation de la violence. C'est-à-dire essayer de la rendre... elle est là, la menace, mais on la rend... je dirais belle, jolie et finalement acceptable. L'autre jour, je suis tombé sur une photo qui m'a sidéré. C'était en Indonésie, dans des affrontements entre... je ne sais pas si c'est en Indonésie ou en Thaïlande, mais enfin, c'était à peu près les mêmes tenues de force de l'ordre. Et les policiers, ils avaient mis des smileys sur leur casque. Et il y a quelques années, je prédisais qu'un jour, on verrait les CRS débarquer de cars peints en rose, jaune et vert et qui seraient habillés en Mickey. C'est ça la cosmétique de la violence. C'est des choses que j'ai étudiées beaucoup. Et c'est vrai, si vous regardez, pour les gens de ma génération, si vous regardez l'évolution, par exemple, je ne parle pas seulement des uniformes et des tenues de combat des forces de l'ordre, mais si vous regardez l'évolution des véhicules, depuis le panier à salade en tôle ondulée noir et blanc, ensuite tout gris, gris vraiment militaire, et puis ensuite blanc, et puis blanc avec des liserés bleus. Je vous dis, bientôt, ça sera des cars un peu Euro Disney, sortiront les CRS habillés en Mickey. Hein. De toute manière, ils ont déjà des tenues de ninja, alors c'est pas gênant. Alors, les dévaluations du pouvoir, ce qui est intéressant, c'est les défaillances. Parce que pour nous, quand vous êtes face à une classe, quand vous êtes face à des gens, quand vous êtes des défaillances du pouvoir. Je me souviens, quand je suis arrivé à l'école des Beaux-Arts, j'ai tout de suite eu des problèmes. Mais on pourra peut-être tout de suite eu des problèmes, parce que quoi, un nouveau directeur, c'est la transition, etc. Et moi, j'ai fait des AG d'étudiants tout de suite, parce que pour avoir de l'information, pour prendre la température, etc. Et à l'époque, j'avais un directeur adjoint qui un soir m'a dit: mais vous vous rendez pas compte, vous m'avez exposé dans des AG déchaînés. C'est vrai qu'il avait peur que ça peut mal se passer dans une AG, mais il avait peur de l'issue. Moi, je pensais que, de toute manière, d'abord, des AG, j'en avais fait, hein, donc on sait faire, d'une certaine manière, et puis, c'était ce qu'il fallait faire. On n'allait pas laisser bouillir la marmite et puis la cocotte minute jusqu'à ce qu'elle explose. Mais il y a toujours une crainte de défaillance du pouvoir. Alors, l'autorité qui se dévalue, ou qui devient un instrument d'achat des gens, de la vénalité, la gesticulation, c'est très important de gesticuler, ce qu'on appelle au sens militaire, c'est très important de gesticuler, mais encore faut-il à un moment savoir où s'arrêter, où faire les choses pour de bon, l'incapacité d'assurer la menace, vous menacez et puis vous ne pouvez pas, hein, je veux dire... le premier poste de prof que j'ai eu, c'était en 1970 au lycée Fabre à Montpellier. Et c'est une anecdote drôle, mais je vous la raconte. J'avais deux classes, une classe de terminale de philo qui était tout à fait tranquille, et puis une classe genre ce qu'on appelait à l'époque. Sciences économiques ou je sais pas quoi, et où ils étaient beaucoup plus, c'était tous des fils de bourgeois assez pénibles. Et notamment, ce qui me faisait marrer, c'est que il y avait le fils du secrétaire général de la préfecture, il s'appelait Torcatis, monsieur, je me souviens bien, qui faisait dans le Midi Libre tout le temps des discours sur la fin de l'autorité, 68, la catastrophe et tout ça, et son fils était le pire élève de la classe. Alors, j'étais sorti de normal sup, j'étais jeune enseignant, aucune expérience pédagogique, je comprenais pas pourquoi il s'intéressait pas à la philosophie, et pourquoi il se tenait si mal. En plus, j'avais mon petit côté anti-bourgeois de l'époque, donc quoi, tous ces fils de bourgeois qui se conduisent mal. Donc je suis allé voir le proviseur, pauvre proviseur, Il avait été muté au lycée Fabre parce que c'était lui qui était à la cité universitaire d'Antony, là où qui avait été à la base des événements déclenchants de 1968. On avait trouvé qu'il avait mal géré les trucs, on l'avait envoyé à Montpellier. Donc il voulait surtout pas d'emmerde, ce brave monsieur. Il était vraiment sympathique, mais il voulait vraiment plus d'emmerde. Il était en fin de carrière. Donc je lui dis, j'ai une classe impossible, j'en veux plus, je veux les sanctionner. Il me dit, mais on peut plus sanctionner personne. Bon, bah, incapacité d'assurer. Alors j'ai peut-être brûlé, j'ai dit, ben moi je viens plus. J'ai eu une note pédagogique effarante qui m'a plombé pendant 10 ans au moins à la suite de ça. Mais il m'a coupé ma classe en deux. Et les choses se sont bien suivies par la suite. Et l'histoire a une bonne fin, puisqu'il y a 2 ans, à l'Université de Tous les Savoirs, je vois un grand escogriffe qui me déboule dessus, pas pour me casser la gueule, et il me déboule dessus et qui me dit « Je m'appelle Ichou ». Oh, je lui dis « Je ne vous aurais pas reconnu, mais le nom, je me souviens bien, c'est un nom, on s'en souvient ». Il me dit « J'étais dans votre classe au lycée Fabre, vous êtes le prof qui a le plus compté pour moi ». Ah ben, je lui dis il était chirurgien dentiste maintenant, et je lui dis « Écoutez, ouais, mais moi aussi, votre classe, elle a bien compté pour moi ». Bon, incapacité d'assurer, effondrement du pouvoir, anarchie, bon, on passe là-dessus. Alors l'autorité maintenant, allons plus vite. Je passe en revue un certain nombre de choses qui sont tout à fait importantes. Le groupe. Il n'y a pas de pouvoir sans adhésion d'un groupe. Ça peut être un groupe mafieux, hein, ça peut être un tout petit groupe, un groupe de pouvoir. Ça peut être un groupe plus large, ça peut être le groupe des profs, ça peut être le groupe de la classe. Mais il n'y a pas de pouvoir sans l'adhésion. Le pouvoir, c'est un phénomène de groupe et l'autorité, elle s'exerce sur un groupe et elle va de pair avec la reconnaissance d'un groupe. Deuxièmement, l'autorité, il faut qu'il y ait un consensus. Peu importe la nature du consensus, mais il faut qu'il y ait un certain consensus. Il peut être plus ou moins fort. Hein, et encore une fois, je crois qu'un consensus trop fort n'est pas forcément la meilleure des choses. Mais l'autorité, ça ne s'établit pas par la violence. Hein, ça ne se rétablit pas et ça ne s'établit pas par la violence. Et puis, troisième chose, c'est la dimension éthique. Je ne sais pas comment l'appeler mieux. Ce qu'on appelle dimension éthique, c'est que l'autorité a quelque chose de correct, de fair, on dirait en anglais, de correct. L'autorité, ce n'est pas la séduction. Donc, si vous voulez séduire, alors Dieu sait si au cours de ma carrière de philosophe, j'en ai vu des profs comme ça, les profs qui séduisent. Au figuré, bien sûr, les étudiants, qui font du charme, qui font des numéros, etc. Ça marche, mais pas tellement. Hein. Ça marche jusqu'à un certain point, et ça leur donne pas véritablement de l'autorité. Il me semble, quand je réfléchis à ma carrière, que j'ai eu pas mal d'autorité sur mes étudiants et auprès de mes étudiants, et c'était pas par la séduction, c'était plutôt l'anti-séduction, et plutôt leur dire « bon, vous êtes affreusement mauvais, ça va pas, etc. Mais enfin, on va vous aider. Hein, je veux dire. Bon, mais pas la séduction, hein, pas dire aux gens « vous êtes beau, vous êtes gentil, vous êtes formidable, et regardez, je suis encore mieux, etc. » Non, l'autorité, c'est pas non plus le dialogue. Il y a un dialogue, il faut écouter. Il faut entendre les gens. C'est très important d'écouter et entendre. Mais ça ne consiste pas à discuter le bout de gras non plus, hein, en disant « vous voulez quoi ?» etc. Pour établir l'autorité, c'est-à-dire pour établir le consensus, le dialogue est indispensable. L'interaction communicationnelle est fondamentale, hein, au départ. Mais ensuite, l'autorité est quelque chose qui décide, ça consiste à décider et pas à se mettre à dialoguer indéfiniment pour remettre les choses en cause. Et bien sûr, évidemment, l'autorité, c'est pas l'achat des gens par des biens, des faveurs, des récompenses ou des concessions. Hein, des concessions. Et une chose importante, c'est que l'autorité a à voir avec l'existence, la dimension hiérarchique. C'est-à-dire, il y a un commandement et c'est l'idée qu'il faut un ordre, qu'il faut des règles et que c'est ça qui détermine la synergie du groupe. Et puis une notion qui commence à être à la mode, la robustesse de la communauté. C'est-à-dire que la communauté a une certaine solidité, elle résiste aux chocs, elle résiste aux agressions, elle résiste au stress, parce qu'elle s'organise, hiérarchiquement. Encore une fois, l'exemple des équipes sportives est quelque chose d'assez important. Hein, aujourd'hui, on voit bien, j'en reviens toujours à mes exemples du départ, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement d'argent en jeu dans le sport que les phénomènes normaux de fonctionnement des groupes sont souvent mis en danger. Mais normalement, si le but, c'est seulement le bon fonctionnement de l'équipe, c'est-à-dire au fond la victoire, il y a la nécessité d'une hiérarchie. Le groupe est organisé hiérarchiquement et obéit à quelqu'un qui est capable de commander et éventuellement aussi de laisser sa place à quelqu'un qui ensuite peut le remplacer si c'est nécessaire. Alors, variété de l'autorité, la liste, elle est immense, mais je dirais qu'aujourd'hui, j'ai mis les choses avec ce qu'il en reste. L'autorité politique, qu'est-ce qu'il en reste ? J'ai tendance à penser que, mais c'est un propos qui est peut-être un peu provocateur, c'est que l'autorité politique, c'est pas l'endroit où il y a le plus d'autorité, la politique. Il y a des systèmes, parce que les sociétés sont tellement organisées, je dirais, du point de vue de la rationalité du fonctionnement, du point de vue administratif, que l'autorité politique, elle se dissout, elle opère pas tant que ça. Regardez, quand on décide de faire quelque chose, avant que ça se fasse, avant que ça se mette en place, je prends un exemple que je connais bien, et éventuellement, nous pouvons des questions, je pourrais en reparler, mais elles ne vous intéressent pas forcément, Dieu merci. C'est la fusion ANPE-UNEDIC, il y a 15 ans que le pouvoir en veut, la demande. Hein, c'était dans le programme de Chirac en 1995. La fusion, elle n'est pas encore en place. Elle est en train de se faire. Elle a commencé en 2009, au 1er janvier 2009. Donc l'autorité politique, je veux dire, compte tenu de la complication des appareils d'État et des appareils administratifs, je ne suis pas sûr que ça soit la question importante. L'autorité religieuse, oui. Oui, elle existe. Les autorités religieuses, elle existe à travers, je dirais, la notion du dogme, hein, l'organisation du dogme, de la croyance, la sagesse dans le guidage et le gouvernement des églises, etc. Un des problèmes étant d'ailleurs, pour nous, dans les sociétés européennes et dites occidentales, c'est que, par exemple, quand on traite avec l'islam, on a affaire à une religion où il n'y a pas d'autorité religieuse hiérarchique. L'autorité parentale, qu'est-ce qu'il en reste ? En tout cas, juridiquement, elle existe. Hein, l'autorité parentale, c'est le pouvoir que vous avez juridiquement sur les enfants, partage de l'autorité parentale en cas de séparation, de divorce, etc. C'est une autorité qui est complexe, qui est faite de beaucoup de choses. Elle est faite d'intérêts. Hein. Tout simplement, l'enfant a besoin de ses parents et il a besoin de deux. Il l'oublie peut-être souvent un peu trop pour survivre, au moins au départ. Elle est faite d'amour, hein, de partage de sentiments. Elle est faite donc parfois d'un partage de valeurs, y compris des valeurs extrêmement difficiles à voir, les valeurs de la vie quotidienne. Les usages les plus simples. Et puis elle est faite aussi de menaces, hein, tout simplement, parce que les parents sont jusqu'à un certain moment, hélas maintenant c'est de plus en plus tôt, plus forts que les enfants. C'est de plus en plus tôt que ça se termine. L'autorité de l'expert, quelque chose de très intéressant, mais qui est à mon avis aujourd'hui surfait, il y a une autorité de la compétence, ça c'est sûr, quand vous êtes... Je suis sûr que les gens qui étaient dans l'avion, là, qui s'est posé sur l'Hudson, ils étaient bien contents ils n'auraient pas discuté les ordres du pilote. Ils étaient bien contents qu'il y ait un type compétent pour s'occuper de l'affaire. Hein. L'autorité de la compétence. Mais on a un peu tendance aujourd'hui à tout faire glisser du côté de l'autorité de l'expert. C'est-à-dire, il y a des experts en tout, il semble-t-il des compétences en tout. Et du coup, l'autorité de l'expert, elle peut aussi devenir contestable. L'autorité du notable ou des anciens. Ça existait dans les sociétés, ça existe toujours quand on est en province, ça existe toujours dans les petites villes, l'autorité du notable, l'autorité du maire, l'autorité de l'élu, l'autorité du professeur. Bon, ça, on pourra peut-être en parler lors de la discussion. Et puis, il y a un dernier truc qui me rend perplexe, je l'ai mis là, j'ai mis plein de points d'interrogation, vous avez vu, 4, 3, j'aurais pu en mettre 4 d'ailleurs. C'est la très curieuse autorité qu'exercent dans nos sociétés les vedettes, les people, que ça soit Britney Spears, les gens qui sont à la Starac. Ça me rend perplexe parce que visiblement, c'est des autorités. Hein, c'est des autorités. Rappelez-vous, quand les hommes politiques reçoivent Bono sur l'humanitaire. Hein, Bono et, ou Nicolas Hulot, c'est des autorités. Hein, des autorités, presque des experts. Hein, bon, et en même temps, c'est juste des vedettes. Hein, et pas beaucoup plus que des vedettes. Hein, l'autorité des people, et ça se retranscrit sur les marques. Parce que entre les people, les vedettes et les marques, tout va de pair. Je ne sais pas comment expliquer ça. J'ai quelques petites idées, mais je dirais que ça fait partie des questions que je pose. Alors, les sources de l'autorité. Ce qu'il faut voir, justement, et c'est là que, dans notre pratique, il faut que nous sachions ça. Il faut que nous sachions ça parce que, d'une certaine manière, ça nous donne une boîte à outils. Une boîte à outils dans nos rapports à l'autorité. C'est qu'il y a une autorité qui est l'autorité de la tradition et l'autorité des coutumes. Et je dirais que ça, on n'y pense plus assez, parce que dans nos sociétés, pourquoi on fait ça? Ben parce qu'on a toujours fait comme ça. Point à la ligne. Les gens vous disent, posent une question, pourquoi on fait ça? Parce qu'on a fait comme ça. Alors s'ils continuent à poser des questions, on peut dire, ben, on a fait comme ça parce que finalement, ça évite de se poser des questions, ça évite, on a le temps de traiter d'autres questions. Il y a une force de la routine. Hein. Cette force de la routine, elle peut être catastrophique aussi. Mais il faut savoir aussi, faire sentir aux gens que tout ne se discute pas tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont des conventions de base pour le fonctionnement et que c'est plus important. Il y a l'autorité de la routine, l'autorité. Moi, par exemple, je prends beaucoup le train, je fraude pas. Hein. J'ai l'habitude de composter automatiquement mon billet pour une raison simple. C'est d'abord, faut que je l'achète. Donc, et ça me pour des raisons morales, je veux pas frauder. Mais outre les raisons morales, j'achète mon billet. Je ne veux pas ensuite me faire des calculs, est-ce que le contrôleur va passer, comment je me le ferai rembourser ou comment je le réutiliserai. J'ai autre chose à faire, et disons que ça ne me ferait pas une économie fondamentale. Donc je composte automatiquement. Simplement, je voyageais ces derniers temps beaucoup sur la ligne Paris-Rouen, c'est infernal. Et pas avant qu'ils aient pas, en attendant la fermeture de la gare Saint-Lazare, les trains sont toujours en retard, les contrôleurs laissent tout faire jusqu'à Mantes parce qu'ils ont peur, et après Mantes, ils verbalisent toutes les vieilles dames. Non, mais c'est ça, hein, je veux dire, c'est des poubelles, etc., etc. Bon, donc je m'étais sérieusement posé la question de est-ce que je vais pas ne pas composter ? J'en ai ras-le-bol de les situations. Puis finalement, je m'apercevais que par routine, je compostais. Même quand je disais, aujourd'hui, je vais pas composter, ben je compostais, parce que c'était mon habitude, ça me facilitait les choses, je pouvais penser à autre chose. Bon, l'autorité de la transition. L'autorité légale, c'est moi qui suis investi légalement de l'autorité, hein, et pas vous. Alors, tout le monde a des droits aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y en a qui en ont plus, et puis qui, de par l'opposition, ont véritablement l'autorité légale. C'est l'autorité du capitaine d'un avion. S'il ne veut pas décoller avec un passager, il ne décolle pas avec un passager. C'est l'autorité d'un capitaine de bateau. C'est l'autorité d'un professeur. Je veux dire, bon, maintenant, il faut voir jusqu'où elle va, mais il faut repenser à ça. Il y a une loi, et vous êtes bien content, en plus, d'en profiter quelquefois à votre tour. Je veux dire, le respect de la loi, c'est pour tout le monde. Il y a l'autorité charismatique. Alors ça, je dirais, c'est les gens qui ont naturellement cette sorte de don de l'autorité, cette sorte de charme. On sait que ça existe. Alors, il y a du vrai et du faux charisme, hein, parce que quelquefois, les gens sont charismatiques à la télé. Hein, et puis, dans la réalité, ils ne sont pas charismatiques du tout. Hein. Moi, mon expérience des hommes politiques, j'en ai eu la chance, je dirais, du point de vue de l'ethnographie, en quelque sorte, d'en fréquenter un certain nombre, c'est que très souvent, ils ne sont pas du tout comme leurs images. Quelquefois, ils sont beaucoup mieux que leurs images. Et puis, quelquefois, ils sont charismatiques à la télé, et dans la réalité, c'est des gens épouvantables, mesquins, minables, médiocres, tout ce qu'on veut. Hein, je veux dire, les faux culs complets, etc. Bon, mais je ne fais pas de l'antipolitique. Hein, mais oui, mais le charisme, ça existe. Il y a des gens qui sont charismatiques, il y a des gens qui ne le sont pas, qui le sont moins. Voilà. Et puis, il y a l'autorité de la compétence. L'autorité de la compétence, encore une fois, ce n'est pas l'expertise. C'est quelque chose que je sais, et que je peux... Que je sais, ça veut dire que je peux vous expliquer. Ça, c'est très important dans la compétence. Il y a une phrase de philosophe Wittgenstein qui dit « J'ai compris, ça veut dire maintenant je peux continuer. Hein? » C'est-à-dire avoir une compétence, c'est avoir aussi la compétence d'expliquer les choses. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand j'ai fait l'Université de tous les savoirs, Dieu sait si je subissais non pas des pressions, mais des conseils, tout ça. On me disait, il faut prendre des vedettes. Il faut qu'il y ait des gens connus, des gens qu'on voit à la télé, qui viennent faire des conférences. C'est très important. Moi, je disais, je m'en fous, parce que d'abord, les vedettes sont connues parce qu'elles passent à la télé, puis c'est très relatif. Hein. Vous connaissez Hubert Reeves, mais vous connaissez pas... et puis, vous connaissez les frères Bogdanov. Bon, Hubert Reeves, il s'y connaît pas mal en astrophysique. Frère Bogdanov, à mon avis, ils y connaissent que dalle. Mais, je veux dire, mais moi, les gens qui s'y connaissent vraiment en astrophysique, ils sont pas connus. Mais mon pari, et je leur disais toujours, mon pari, c'est que ceux qui sont très compétents, ils savent expliquer. Parce qu'on me disait, ils vont pas savoir vulgariser. Et l'expérience qu'on a eue, c'est qu'ils savent vulgariser. À 95%, j'ai rarement vu des gens qui sachent pas vulgariser. Quand ils savent pas vulgariser, comme un fameux logicien de Marseille, c'est qu'ils sont d'une timidité pathologique et que c'est l'angoisse absolue, je veux dire, pour eux. Et donc ils peuvent travailler qu'avec un tout petit groupe. Mais normalement, les gens qui connaissent leur affaire, ils savent l'expliquer et ils savent vous la présenter. Ça, c'est ça l'autorité de la conférence. Alors, par rapport à ça, vous allez vous heurter à des formes de défiance. Bon, d'abord, il y a ceux... Et ces formes de défiance ne sont pas forcément mauvaises. C'est-à-dire que c'est pas mal que les gens aient un certain recul et une certaine critique par rapport à l'autorité. Pas trop, parce que si ça fait tout basculer, ça va pas. Mais qu'ils gardent quand même une capacité à dire non, ou à se défier, ou à faire attention. Ceux qui ne croient pas les usages. Bon, pour... doucement, surtout pour les adolescents, ils sont bardés de conformisme et en même temps, ils veulent transgresser. Bon, il y a des gens qui ne croient pas dans les usages. Ça peut être une source d'anarchie, mais ça peut être aussi une source d'innovation. Il y a ceux qui ont le soupçon sur la loi, d'une certaine manière, à juste titre, par rapport à l'autorité légale. Hein, à juste titre, parce que la loi, on peut aussi en faire ce qu'on veut, mais là, je crois qu'il faut aussi leur expliquer que la loi, elle sert dans tous les sens. Ceux qui ne croient pas à l'autorité charismatique, les personnes méfiantes, qui se méfient de la séduction du charismatique, et puis, un cas qui est très important et de plus en plus difficile aujourd'hui, c'est l'aveuglement à la compétence. Ça, c'est un des cas qui est le plus gênant aujourd'hui. Je dirais que dans les dernières années, c'est celui que j'ai le plus mesuré avec les étudiants. C'est que d'une certaine manière, quand les gens sont à un degré d'incompétence très importante, ils n'arrivent même plus à faire la différence entre quelqu'un de compétent et quelqu'un de pas compétent. Et, ou alors, ils ne voient même pas que c'est nécessaire d'avoir une compétence dans un domaine donné. Et ça, je pense que c'est un truc, je vois que certains d'entre vous le voient, opinent sur cette question. C'est vraiment un problème. Hein, parce que moi, avec mes étudiants, par exemple, depuis que Internet s'est généralisé, en gros, un étudiant de philosophie dans le supérieur, y compris un étudiant avancé, c'est ça qui est le pire, un étudiant avancé, tout ce qui n'existe, tout ce qui n'est pas sur Google n'existe pas. Donc, tout ce qui a plus de 5 ans, en gros, ça n'existe pas. Alors, vous avez des bibliographies qui sont lunaires, où à la limite, ils vous mettent Aristote 2005, parce qu'ils ont trouvé une édition de Aristote de 2005, mais si Aristote n'était pas référencé pour 2005, il n'est pas dans l'affaire. Si vous leur dites, écoutez, il y a quand même 2000 ans de savoir, de gens, il y a déjà des gens qui ont travaillé, vous êtes en train d'enfoncer des portes ouvertes pour la énième fois, il y a des choses qui ont été dites sur la question, etc. Ils vous regardent comme si vous étiez un ahuri. Il y a un aveuglement à la compétence et à la compétence nécessaire dans certains cas. Alors, Dieu merci, quand on entre, par exemple, dans le domaine scientifique sérieux, là, l'aveuglement à la compétence, il ne dure pas longtemps. Hein. C'est-à-dire que si vous restez aveugle, vous prenez la porte et puis on n'a pas besoin de vous. Mais dans des tas de domaines de la société, il y a un aveuglement à la compétence aujourd'hui. Et ça va de pair avec l'idée qu'il y a tellement d'experts que de toute manière, on peut dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet. Et ça, je dirais que c'est un des problèmes pédagogiques importants aujourd'hui. C'est celui de l'aveuglement à la compétence sous ces deux formes. Soit on ne voit pas de quoi il s'agit, soit on ne voit pas qu'elle est nécessaire dans un certain cas. On se débrouille tellement bien tout seul que... c'est vrai que, je prends un exemple, faire des calculs aux gens, après avoir la grecque de philo, j'ai fait pas mal de sciences. Et donc j'étais nouvel apprenant. C'était une expérience assez traumatisante aussi, hein, parce que vous êtes censé avoir une compétence, puis vous vous retrouvez en avoir plus avec des gens beaucoup plus jeunes que vous, un peu plus jeunes que vous. Faire du calcul, il se trouve qu'à Orsay, j'ai eu un prof, Yves Meyer, qui nous faisait faire beaucoup de calculs, et on apprenait énormément sur la théorie des nombres en faisant des calculs. Hein. Bon, si vous dites, oh ben c'est pas nécessaire, il y a des calculettes. Hein, vous avez des calculettes, ben vous apprenez rien sur la théorie des nombres. Hein, je veux dire, c'est tout. Je veux dire, ce que vous touchez du doigt en faisant du calcul, c'est en fait le fonctionnement des ensembles de nombres. Si vous prenez la calculette, vous ne voyez pas que c'est nécessaire. Alors, ben vous pouvez dire aux gens, imaginez qu'il n'y ait plus de piles. Hein, voilà. Et après, vous faites quoi, hein? Non, mais c'est vrai. Hein, vous pouvez couper l'électricité. Hein, dire, tout ce qui marchait avec l'électricité ne marche plus. Maintenant, comment vous faites pour faire marcher votre balance, hein, et vendre votre truc. Alors, là, je passe vite, parce que c'est peut-être plus de la philosophie ancienne. Au cours de l'histoire de la pensée, mais je vais quand même concentrer sur les choses importantes, au cours de l'histoire occidentale, européenne, de la pensée sur l'autorité, on s'aperçoit que la notion d'autorité, elle n'existe pas chez les Grecs. C'est très curieux, elle n'existe pas. Et collectivement, ce sont des gens qui sont des théoriciens de la démocratie, ce sont des théoriciens de la communauté des citoyens, mais c'est une communauté peu hiérarchique, puisque la plupart des emplois, des charges administratives étaient tirées au sort. Pas les militaires. Hein. Quand il s'agissait d'aller mettre des roustes aux voisins et de les piller, on prenait les gens compétents. Mais pour le reste, il partait du principe que n'importe quel citoyen pouvait être président de la République, on le changeait tous les jours, donc ça a été vite fait, que tout le monde pouvait être juge, que je trouve tout à fait juste aussi. Mais donc ils se sont tournés plutôt sur d'autres modèles. Le modèle technique, mais le modèle technique, c'est pas l'autorité. Les ingénieurs ont une autorité, dire purement de contrainte technique, mais pas une autorité qui persuade. Le modèle familial, mais là c'était pas la famille d'aujourd'hui, c'était le maître de famille, hein, le père de famille qui impose son autorité. Le modèle pastoral, le gardien et les brebis, le berger et les brebis, c'est bien sympathique, mais le berger il finit toujours par manger la brebis. Alors donc c'est moi. Et puis le modèle despotique, c'est-à-dire le modèle de la tyrannie. C'est ça. Mais pas véritablement de pensée de l'autorité. En revanche, il y avait deux choses que les Grecs pensaient très bien. C'est l'autorité des gens qui ont de la vertu, le modèle de vertu, Périclès. Et si Périclès est reconnu, c'est pas seulement parce que c'est un grand législateur et un homme politique, mais c'est parce que c'est un homme de vertu et de savoir. Et puis l'autorité du savoir. Autorité de la vertu, autorité du savoir. Bon. Les Romains, eux, ont eu une conception de l'autorité. Ça, c'était une chose qui était très importante pour Hannah Arendt. C'est l'autorité, elle vient du passé, et pas du passé comme routine, mais du passé en tant qu'on a des pères fondateurs. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la démocratie américaine aujourd'hui. L'autorité, c'est celle des pères fondateurs. C'est celle des gens qui ont fondé la communauté, et d'où la notion d'autorité. Parce que auctoritas, ça veut dire... ça vient du verbe augeo, ce qui veut dire augmenter. L'autorité, c'est ce qui rend quelqu'un auteur, c'est ce qui fait que quelqu'un est auteur, et qu'ensuite, et un auteur, c'est quelqu'un qui augmente le stock des choses du groupe. Hein, les nouveaux venus augmentent la force de la tradition. Et puis, ce qui a tout compliqué, et qui a, et en même temps, on en vit énormément de ça, mais c'est des sujets qui ont été travaillés dans les 50 dernières années, pas tellement avant. C'est l'autorité. Ensuite vient la surimposition de la religion chrétienne et donc l'autorité de Dieu, et essayer de faire une synthèse entre l'autorité de Dieu qui est complètement disproportionnée par rapport à notre nature humaine et l'autorité politique, avec au passage l'autorité des rois et l'autorité des papes. Alors ce qui est intéressant, c'est que à partir du 4e, 5e siècle après Jésus-Christ, eh bien, on a constamment ce débat, mais un débat qui parfois est très violent, entre autorité politique et autorité religieuse, ce qui fait que pour nous, il se pose toujours la question du sacré en politique. Et de ce côté-là, je dirais qu'il y a deux écoles qui s'opposent. Une école comme lockienne, John Locke, le philosophe de la fin du XVIIe siècle en Angleterre, c'est que l'autorité politique, c'est l'accord des citoyens, le consensus des citoyens pour se soumettre à une autorité et choisir un souverain, monarchie constitutionnelle. Et donc la religion, c'est une affaire purement privée, purement privée, purement privée, purement privée. Et puis d'un autre côté, vous avez ceux qui, comme Rousseau, considèrent qu'il ne peut pas y avoir de pouvoir politique et d'autorité politique sans un arrière-plan religieux, donc la religion naturelle, la religion de l'être suprême, et la Révolution française a essayé de créer une religion qui serait une religion politique et qui se substituerait à la religion catholique. Alors, je conclue maintenant sur... Sur autorité et éducation. On a déjà, je pense, abordé la question à travers les points que vous ressentiez comme sensibles, mais je dirais que si on veut poser la question dans l'éducation, il faut revenir à ce qu'on a vu sur les sources de l'autorité. Alors, ce qui compte beaucoup dans l'autorité, je vous l'ai dit, c'est le groupe. Le groupe auquel on a affaire et sur lequel on exerce l'autorité. Bon, aujourd'hui, le problème du groupe, c'est son homogénéité et en même temps son manque d'homogénéité. Le groupe auquel on a affaire. Je suppose que là, je n'invente pas des choses que vous découvrez. C'est-à-dire que le groupe est homogène dans la mesure où c'est des groupes de jeunes qui ont les mêmes cultures, les mêmes usages technologiques, les mêmes rapports à la consommation, les mêmes rapports au plaisir, aux extrêmes, etc., etc. Et en même temps, c'est des groupes qui sont très souvent hétérogènes du point de vue des origines ethniques et origines religieuses. Au lycée Bergson, le proviseur m'avait dit qu'il avait 31 nationalités dans le 20e arrondissement à Paris. Ça pose vraiment un problème si vous êtes enseignant face à un groupe qui est un groupe hétérogène. Je veux dire, moi, je me rappelle quand j'ai fait mes études dans les années 60 à Lyon, au lycée du Parc, les groupes étaient bourgeois, moyens bourgeois, pas de prolétaires, hein, il n'y avait pas de gens d'origine prolétaire. Politiquement, les familles étaient modérées, hein, en gros. Il y avait en général un communiste. Un communiste, c'était, je me rappelle, parce qu'on le connaissait, hein, était le communiste, était seul et il y avait majoritairement des catholiques et puis un petit groupe de protestants. Donc vous voyez, mais ça, on le savait. Eux, ils sont protestants, nous, on est catholiques. Hein, vous voyez. Donc le groupe avait quand même une très forte homogénéité. Là, aujourd'hui, moi, ce qui m'a frappé quand j'ai été à Maison Alfort, là, au collège Édouard Herriot, pour mes cours de philosophie, c'est que j'avais affaire à des groupes très hétérogènes. Quelquefois hétérogènes en âge, quelquefois hétérogènes ethniquement, bien sûr, mais surtout hétérogènes religieusement. Je me rappelle que souvent, quand un jour on a fait quelque chose sur qu'est-ce que l'au-delà, j'avais... trois qui étaient d'origine chrétienne, mais qui ne savaient plus trop de quoi il s'agissait. Il y avait trois israélites orthodoxes. Il y avait trois musulmans orthodoxes. Une autre qui était vaguement musulman, je dirais un peu à la marseillaise, du genre... parce que j'ai fait aussi une conférence à Marseille, où quand j'ai demandé aux gens, vous c'est quoi votre identité, c'est sur l'identité communautaire, ils m'ont dit, on est marseillais et musulman. Zidane. Hein, on est marseillais et musulmans. Zidane et Ribéry, hein, c'était tout ça. Et quand je les ai interrogés sur l'islam, ils ne savaient rien, mais rien du tout. Mais ils étaient marseillais et musulmans. Voilà. Donc le groupe, il a ses divisions, et je dirais que c'est un problème pour assurer justement un consensus à l'intérieur du groupe. Si vous avez, ceux qui ont vu le film de Laurent Cantet voient très bien qu'à l'intérieur du groupe, il y a des divisions très fortes. Nous, on a fait des conférences, je crois que c'était au lycée Turgot. Hein, où il y avait des Chinois et des gens d'origine maghrébine, et la tension était très forte. Hein, je veux dire, le groupe n'avait vraiment pas d'homogénéité. Bon, après, il y a ce que j'appelle la communauté. C'est-à-dire, ça, c'est pas le groupe auquel vous avez affaire en tant qu'enseignant, mais la communauté, je dirais, à laquelle vous appartenez en tant qu'enseignant. La communauté du lycée, la communauté des enseignants, la communauté syndicale, la communauté. C'est cette communauté-là. Bon, eh bien, je dirais que les communautés, elles ont aussi tendance à devenir extrêmement complexes. Nous avons de multiples appartenances, il y a des pluri-appartenances, et donc la communauté c'est différencié. Bon, la loi. Alors la loi, je dirais que la loi est une source de l'autorité, mais le problème, c'est que la loi, elle est critiquée. Et elle est critiquée, je dirais, d'une manière assez justifiée, dans la mesure où il y en a trop, pour commencer. La loi républicaine, qui s'applique à tous, etc., aujourd'hui, c'est devenu des codes qui sont épais comme ça, et on a l'impression que les lois, c'est des affaires d'opportunité. Donc ça pose des problèmes. La tradition, mais je dirais, quelle tradition ? Quand je mets « quelle tradition », c'est-à-dire à quelle tradition pensez-vous qu'il est bon de pouvoir se référer ? Quelle tradition ? Ça peut être la tradition d'un établissement. Il y a des établissements qui ont une continuité dans leur existence, qui ne sont pas récents, et qui ont leur manière d'être. Et puis, on peut choisir d'autres traditions. On peut choisir des traditions régionales, comme on le voit souvent en province, des traditions locales. On peut trouver des traditions, je vous dis, à Marseille, je suis très frappé quand on va à Marseille, que le rôle des traditions marseillaises, y compris dans les quartiers nord, est très fort. Et c'est une des raisons qui explique que, hormis des drames comme celui de cette jeune femme qui a été brûlée dans un autobus, Marseille est plutôt une ville bien intégrée, malgré sa diversité culturelle, parce que la tradition marseillaise est une tradition d'intégration multiculturelle très forte, depuis le 19e siècle, depuis très longtemps. Donc ça fait partie, ça forme la tradition. La coutume et les usages, quels sont les usages que vous avez ici? Quelles sont les choses qui sont partagées? Là, encore une fois, c'est pas loin d'ailleurs de la notion de tradition, mais c'est plutôt plus terre à terre, si vous voulez, la coutume et les usages. C'est comment est-ce qu'on fait d'habitude, et comment est-ce qu'éventuellement on peut la renforcer. Je dirais pas la créer de toutes pièces. C'est très difficile de créer des coutumes, mais renforcer celles qui sont présentes, est-ce qu'elles valent la peine d'être renforcées, etc. Moi, quand je dirigeais l'école des Beaux-Arts, j'avais une chose que je supportais pas, c'était la fanfare. Des beaux-arts, parce qu'en fait c'est les architectes, ils font la quête pour aller se saouler, et puis et ils jouent toujours la même musique épouvantable, etc. Et donc c'était pas une tradition qui m'intéressait beaucoup à l'école des beaux-arts. J'ai rien fait pour l'encourager, ni pour la décourager non plus, mais j'aurais sûrement pas donné un centime sur le budget de l'école à la fanfare. Ils avaient qu'à aller faire la manche dans la rue, c'était très bien. En revanche, il y avait d'autres, la tradition des journées portes ouvertes, je l'ai très fortement encouragée, revitalisée, soutenue, encouragée. Vous voyez, choisir, c'est ce qu'il y a dans une situation qui est importante. Le charisme. Je ne sais pas quoi vous en dire, parce que là, on l'a ou on l'a pas. Je ne monte pas d'entreprise d'aide à la distribution de charisme. Ça, je ne sais pas faire. Il y a des pubeux qui font ça, je pense aussi. Regardez comment ils ont transformé Ségolène Royal. C'est faisable, hein, mais là, on tombe sur le phénomène de pipolisation, etc. Et puis, un élément très important, je l'ai mis en dernier, c'est l'organisation de l'action. Ça, je crois que c'est très important de dire qu'au fond, on est là pour quelque chose et pour que ça marche d'une certaine manière. Moi, ce qui m'a frappé dans le film de Laurent Cantet, c'est qu'à aucun moment on ne voit apparaître dans son film l'idée qu'ils sont là pour quelque chose. Que lui est là pour quelque chose et que les élèves sont là pour quelque chose. Si vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, comme c'est souvent le cas à l'école, si le prof ne sait pas non plus pourquoi il est là, il n'y a pas de chance que ça prenne en quelque sorte. Il faut savoir pourquoi on est là. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est une question que j'avais à l'école des Beaux-Arts. On n'est pas là pour être dans le show d'un atelier. On est là pour devenir des artistes ou pour trouver éventuellement un boulot le jour où on n'arrivera pas à être un artiste. Mais qu'est-ce qu'on veut faire et quelle est l'organisation du groupe par rapport à ça? Alors, dernière chose, et je vais conclure là-dessus, c'est, tout ceci c'est bien joli, mais ça s'applique à un public. Et on a aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose que j'ai vu, que j'indique dans le texte de Bernard Williams, c'est que on a affaire à des gens jeunes qui sont individualistes, moi, mais moi comme les autres, le groupe, tous différents, tous pareils, tous singularisés par le tatouage, mais c'est tous le même tatouage, donc ou alors en sous-groupe, j'étais sidéré avec les collégiens de savoir tous les codes qu'ils avaient sur les R&B, les skaters, les gothiques, etc., et la manière dont tout ça a été codifié au millimètre, donc le conformisme, les appartenances plurielles, ça c'est vrai que on a des gens qui ont des appartenances plurielles, des gens comme des personnes. Il y a l'égalité abstraite. Par principe, ce sont des êtres humains. On doit ce respect abstrait à l'humanité. Que le type soit abruti ou pas abruti, qu'il soit intelligent ou pas intelligent, qu'il soit handicapé, pas handicapé, il y a le respect abstrait pour les personnes. Je veux dire, parce que ce sont des êtres humains, c'est fait partie de notre sociabilité. Ensuite, il y a l'égalité différenciée. Elle est très importante, c'est-à-dire tenir compte des appartenances, tenir compte des handicaps, tenir compte des différences, tenir compte des difficultés, tenir compte des différences intellectuelles, physiques, physiologiques, etc., etc. Ça relève de ce qu'on appelle aujourd'hui la sollicitude, le soin, le care. Hein, je veux dire, c'est pas le respect abstrait. Et puis, troisième sorte d'égalité que moi je rajoute, qui est dans le texte de William, c'est l'égalité en considérant les personnes comme des personnes libres et responsables. C'est-à-dire un respect qui est « je te respecte parce que tu es capable de prendre ta vie en main. Hein, parce que tu es capable de savoir ce que tu dois... Parce que tu dois être capable de savoir ce que tu veux faire de toi. Hein. » Ça, c'est un respect éthique et qui n'est pas du tout le respect abstrait du début, c'est un respect extrêmement exigeant. Hein. C'est du genre... Tu dois te prendre en main parce que tu es quelqu'un qui a une liberté et qui a une conscience. Donc voilà les trois idées, si vous voulez, directrices dans le traitement des gens. L'abstraction de l'égalité juridique, hein, vous êtes tous égaux en tant que vous êtes des êtres humains. L'égalité différenciée, il y a des différences. Tu es malvoyant, malentendant, ceci ou cela. Un certain soin qui ne doit pas aller jusqu'à la volatilisation complète de l'égalité. Et puis, troisièmement, quelque chose qui est de l'exigence. Exigence. Bon, je prends un exemple qui était très courant, et je terminerai là-dessus, parce que je crois que c'est ma dernière diapositive. Et très, très courant, je conclue là-dessus. C'était les étudiants africains qui venaient s'inscrire en thèse. J'en ai connu pas mal à la Sorbonne, à Rouen, etc. Alors, vous aviez égalité abstraite. J'ai toujours trouvé ce comportement de la plupart des universitaires extrêmement raciste. Égalité abstraite, mais bien sûr, venez vous inscrire, vous allez faire une thèse comme tout le monde, etc. Il n'y a pas de problème, inscrivez. En sous-main, de toute manière, il ne sait rien, il n'y arrivera pas, il n'a pas les documents, etc. Donc on laisse courir. Ça, c'est première étape, égalité abstraite. Deuxième étape, égalité différenciée. Je veux dire, et puis, du coup, il fera une thèse nulle, et puis on prendra un jury nul, et puis on se débrouillera pour que ça passe, etc. Moi, j'ai toujours pratiqué, à la différence de pas mal de collègues, j'ai toujours pratiqué première égalité, deuxième égalité, tenir compte du fait que le type, il a eu des études où il n'y avait pas de bibliothèque, par exemple, il arrive d'un endroit où il n'y avait pas de bouquin, hein, et dire c'était difficile de savoir, mais exigeant. Disons, de toute manière, c'est une thèse, hein, et on va réellement vous traiter comme si vous étiez, on va vous secouer, hein, et puis on va vous mettre au boulot, et on va vous demander vraiment de faire correctement la thèse, en essayant de choisir bien le sujet, mais de on va vous traiter normalement en tant que vous êtes un intellectuel et on ne va pas vous laisser vous égarer pendant 5 ans là-dessus. Je crois que c'est les trois attitudes que je crois qu'on doit mélanger, équilibrer avec subtilité quand on a affaire aux individus contemporains. Voilà, je m'arrête là. J'ai parlé trop longtemps, mais enfin bon, ça va quand même. Et je vous dis à tout à l'heure, peut-être. Hein. Je ne sais pas comment on fait, là.
Voilà. Merci beaucoup.